Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Excellence, cher Père, bien cher fidèle, pour bien comprendre la signification de la scène et du Saint-Sacrifice de la Messe, il faut se reporter aux explications que Jésus lui-même a données dans son grand discours sur le pain de vie après la multiplication des pains. Qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Ainsi, l'hostie et le vin consacrés par Jésus au soir du jeudi saint et par le prêtre à chaque messe sont-ils vraiment et réellement le corps et le sang de Jésus-Christ qui se donne à nous en nourriture. Mais après avoir entendu ce discours, beaucoup de disciples ont murmuré « Cette parole est dure, qui peut l'entendre ?» parce qu'ils croyaient les choses d'une manière déformée. Ils pensaient que Jésus les avait encouragés à l'anthropophagie. Alors Jésus leur dit « Ceci vous scandalise, que sera-ce ?» Quand vous verrez le Fils de l'homme remonter où il était auparavant, c'est l'Esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie, mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. Les protestants et les modernistes ont compris que par ces dernières paroles, Jésus tempérait son discours précédent, que tous ses auditeurs trop grossiers avaient mal interprété. Un peu comme si notre Seigneur avait dit « Vous avez cru que vous deviez me manger avec votre bouche, mais non, car alors vous me consumeriez et je ne pourrais pas retourner entier et vivant au ciel d'où je viens. Vous avez cru que pour avoir la vie, il fallait manger ma chair et boire mon sang au pied de la lettre, mais non, c'est l'Esprit qui vivifie, ce n'est point la chair. Au contraire, la chair ne sert de rien. » Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Autrement dit, tout est figure et allégorie dans mon discours. Il n'y a rien à prendre au pied de la lettre. La présence réelle, c'est une image. C'est une expression pour dire que je suis spirituellement présent au milieu de vous quand vous vous rassemblez pour faire mémoire de moi. Et c'est tout. Évidemment, ce n'est pas ce que Jésus a voulu dire. Car sinon il se serait manifestement contredit. Les paroles de son discours précédent, il suffit de les relire, sont parfaitement claires, et Jésus ne les atténue pas. « Si vous mangez ma chair et ne buvez mon sang, vous n'aurez pas la vie éternelle. » Il s'agit donc bien de sa chair et de son sang réel. Et c'est pourquoi précisément ces mots scandalisent ses auditeurs. Ils ont bien compris que ce n'était pas une métaphore, et c'est d'ailleurs pour ça que beaucoup le quittèrent. Alors, que veut dire le Sauveur quand il ajoute « C'est l'Esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien, les paroles que je vous dis sont esprit et vie ». À l'évidence, une difficulté demeure. C'est l'Esprit qui vivifie. Serait-ce donc que la chair ne vivifie pas, la chair consacrée, la chair de notre Seigneur ? Alors pourquoi Jésus a-t-il dit « Celui qui mange ma chair aura la vie éternelle ». La chair ne sert de rien. Si la chair de Jésus ne sert de rien, pourquoi donc en a-t-il parlé avec tant d'avantages et si longtemps? Les paroles que je dis sont esprit et vie. Est-ce donc qu'il ne faut pas s'attacher à la chair et au sang? Mais alors, pourquoi faut-il les manger et les boire? Il y a donc évidemment ici un autre sens que celui très matériel et pourtant assurément très vrai qui a scandalisé les auditeurs du discours de Jésus et qui est rejeté par les modernistes. Un autre sens qui n'est pas contradictoire, mais complémentaire, fondé sur le sens premier et obvie qui veut que la chair et le sang de Jésus reçus dans la Sainte Eucharistie soient vraiment sa chair et vraiment son sang. Et en effet, si la chair de Jésus-Christ donne la vie et que l'Esprit vivifie aussi, eh bien c'est donc que cette chair est remplie d'un Esprit vivifiant. Et dès lors, quand Jésus dit « la chair ne sert de rien », où il ne l'entend pas de sa chair à lui, mais de la nôtre, ou si c'est bien de sa chair qu'il veut parler, alors il veut dire que sa chair ne sert de rien si on la prend toute seule, matériellement, sans l'esprit dont elle est pleine. Et quand il conclut que ses paroles sont esprit et vie, après avoir tant parlé de sa chair et de son sang, c'est donc que cette chair et ce sang sont eux-mêmes esprit et vie, tout rempli de divinité, tout rempli de l'esprit de Dieu, de la vie de la grâce, et donc il faut les manger réellement, vraiment, mais aussi d'une manière qui dépasse les sens, d'une manière divine, qu'il ne les altère pas, qu'il les laisse tout entiers, vivants, incorruptibles, tels qu'ils sont actuellement dans le ciel, unis à la personne divine de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire sous un mode qui n'est pas charnel, mais sacramentel. Autrement dit, tout en recevant ce corps et ce sang réellement, et non pas allégoriquement, comme le disent les modernistes ou les protestants, il faut les recevoir de la même manière qu'ils se donnent à nous, c'est-à-dire selon un mode qui est tout spirituel, tout divin, un mode sacramentel et non pas purement charnel ou matériel. Ce n'est pas un manger ou un boire en figure ou en allégorie, pas plus que ce n'est un corps ou un sang en figure ou en allégorie. Mais pourtant, il faut manger cette chair et boire ce sang à certains égards spirituellement, c'est vrai. Vous voyez que spirituellement peut avoir deux sens. On peut l'entendre comme une allégorie, et c'est du modernisme. On peut l'entendre aussi pour dire que ce corps et ce sang que nous devons recevoir, ce corps que nous recevons dans la Sainte Eucharistie, est plein d'esprit et de vie et qu'il faut le recevoir d'une manière divine, angélique. C'est le pain des anges. Alors nous ne devons rien rabattre du sens littéral, mais il faut y ajouter un sens spirituel et divin. Il ne faut pas faire comme les protestants ou les modernistes rationalistes qui veulent ne voir dans cette chair qu'une figure ou un signe. Et il ne faut pas non plus faire comme les auditeurs charnels de Jésus qui se scandalisent de ce qu'ils croient être une infamie grossière et qui ne comprennent pas comment Jésus-Christ est dans le ciel si on le mange sur la terre. Il faut approfondir un petit peu plus. Que veut dire « la chair ne sert de rien » ? Bossuet l'explique avec bonheur, en rapprochant cette parole de la parole de l'Évangile par laquelle la Vierge Marie est déclarée bienheureuse. C'est la parole que lui adresse sa cousine Élisabeth. « Vous êtes bienheureuse d'avoir cru en l'accomplissement de ce qui a été dit de la part du Seigneur. » C'est le jour de la visitation que Élisabeth dit cela à Notre-Dame. Vous êtes bienheureuse d'avoir cru en l'accomplissement de ce qui a été dit de la part du Seigneur. Une partie a déjà été accomplie lorsque la visitation se fait, puisque Marie, la Vierge Marie, a déjà conçu. Il faut encore que l'enfant Jésus naisse, et cela s'accomplira en son temps à Bethléem. Donc Marie est heureuse de cela. Mais elle n'est pas seulement bienheureuse d'avoir conçu et de porter dans sa chair la chair du Sauveur, de lui être charnellement unie. Elle est surtout heureuse, lui dit sa cousine, d'avoir cru. Autrement dit, d'être unie à son Fils et à son Sauveur par la foi. Elle est bien heureuse d'avoir cru à la descente du Saint-Esprit sur elle, d'avoir cru à la manière inouïe dont elle concevrait cet enfant et le mettrait au monde, tout en préservant sa virginité. Et surtout d'avoir cru qu'il serait cet enfant non seulement son propre fils, mais le fils du Dieu Sauveur. Vous voyez que Marie est bénie entre toutes les femmes par le fruit qu'elle porte charnellement en ses entrailles, mais elle est bienheureuse par la foi avec laquelle elle a cru à ce mystère qui devait s'opérer en elle. Elle est bénie et bienheureuse. Et vous voyez comme la foi transcende et surélève la réalité proprement charnelle de la grossesse et de la maternité merveilleuse de Notre-Dame. L'union à Jésus par la foi est plus belle, plus délicate encore que son union par la chair. À sa maternité charnelle s'ajoute une autre maternité plus heureuse que lui vaut la foi. D'une certaine manière, elle est davantage mère de Jésus pour avoir cru à la parole de l'ange que pour l'avoir conçue dans sa chair. Ce qui ne veut pas dire qu'elle ne l'ait pas conçue réellement, évidemment. Comme ont dit les pères de l'Église, elle fut plus mère pour l'avoir conçue selon l'esprit, par son fiat, que pour l'avoir conçue selon la chair. Et c'est ce que notre Seigneur, d'ailleurs, a lui-même déclaré en réponse à cette femme qui criait du milieu de la foule « Bienheureuses les entrailles qui vous ont porté et le sein qui vous a allaité. » Et Jésus a répondu, vous vous souvenez, « Bienheureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent, c'est-à-dire ceux qui croient. Ce sont ceux-là qui sont ma mère et mes frères. » Eh bien, si on transpose, il en va de même pour nous dans la Sainte Eucharistie. Le plus important, si l'on peut dire, ce qui fait que la communion est fructueuse, ce n'est pas ce qui s'accomplit en nous selon la chair, mais ce qui doit s'accomplir aussi par la foi et selon l'esprit. Et cela nous montre donc dans quelle disposition nous devons recevoir la Sainte Communion. En effet, en communiant, nous recevons vraiment le Seigneur, selon la chair et selon le sang, tout comme Notre-Dame le reçut en son sein. Ça n'est pas une allégorie, c'est pas une figure. Mais si nous devons croire avec Notre-Dame ce qui s'accomplit en nous selon le corps, il nous faut surtout croire avec elle ce que cette chair vivifiante de Jésus accomplit en nous selon l'Esprit. Il n'eût servi de rien à la Vierge Marie de concevoir Jésus selon la chair si elle ne l'avait pas en même temps conçu selon l'Esprit. Et bien de même, il ne nous sert de rien de ne recevoir le corps de Jésus que selon la chair, sans foi, sans amour, sans attention ni préparation. Pire, cela peut même être pour notre condamnation. Nous venons de l'entendre, c'est saint Paul qui le dit. Si nous ne discernons pas le corps du Seigneur, alors nous le recevons indignement. Demandons donc à la Vierge Marie qu'elle nous apprenne à recevoir le Fils de Dieu comme elle, en notre corps, assurément, mais aussi en notre esprit, par la foi. Ne nous contentons pas seulement de recevoir matériellement le corps du Sauveur quand nous venons communier, mais accueillons-le avec une âme pleine de désir, pleine de foi, toute prête à faire sa volonté et ce qui lui plaît. C'est cela que veut dire « la chair ne sert de rien, c'est l'esprit qui vivifie ». Pour terminer, il convient de remarquer que c'est par une opération du Saint-Esprit que le Verbe a été conçu dans la chair de Notre-Dame. C'est aussi par une opération du Saint-Esprit, par une grâce de choix, qu'elle l'a reçu dans son esprit et qu'elle a prononcé son fiat. C'est encore par une opération du Saint-Esprit qu'il est aujourd'hui et tous les jours comme conçu et enfanté sur l'autel en son corps, son sang, son âme et sa divinité quand le prêtre dit la messe. Et c'est donc également par une opération du Saint-Esprit que nous le recevrons en esprit et en vérité, non seulement selon la chair, mais selon l'esprit, avec foi, avec charité, en esprit d'adoration, pour qu'il produise en nous tout son fruit de conversion et de sanctification. Alors vraiment, comme la Vierge Marie, nous serons bien heureux, en attendant le bonheur de l'être définitivement avec notre Seigneur au ciel, dans la béatitude céleste, selon une union ineffable qui cette fois ne sera plus du tout selon la chair, mais uniquement selon l'Esprit. Alors au cours de cette messe, en ce jeudi saint, où nous commémorons l'institution de la Sainte Eucharistie et l'institution du sacerdoce, demandons cette grâce, un signe de bien savoir communier. Que Notre-Dame nous apprenne à bien communier, à recevoir son Fils selon l'Esprit, pour que, loin de nous servir de rien, sa chair sacrée nous vivifie et nous divinise. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.